Maître Gérard, bon matin.
Bonjour, bonjour.
C'est une question du public qui nous vient de Marie-France ce matin où on se posait la question, quelle est la différence entre marié et pas marié en cas de décès?
Bien, c'est une excellente question. Hein? Puis cette question-là, les gens peuvent se la poser une fois qu'il est trop tard. Alors, une fois qu'il y a un décès. Alors, première chose à vérifier, c'est s'il y a un testament. S'il y a un testament, c'est certain qu'on va suivre le testament. Là, j'ouvre une parenthèse. C'est pas parce qu'il y a un testament que ce dernier est automatiquement valide. Il faut vraiment, ça se conteste un testament. Hein? Il faut vérifier si la personne avait la capacité de tester, mm-hmm. de faire son testament, parce qu'il y en a de la jurisprudence à cet effet-là. Là. Des gens qui sont atteints de démence et qui vont aller voir avec des membres de la famille, qui vont aller voir un notaire qu'ils ne connaissent pas, et puis le notaire ne voit pas parfois les signes de démence ou ne demande pas un billet médical.
Ou Maître Gérard, des fois en fin de vie aussi, les gens là, fortement médicamentés, plus ou moins là mentalement parce que la médication est trop forte, ça marche pas ça non plus.
Ouais. Alors, faut vérifier la capacité de tester et aussi on peut contester un testament si on voit qu'il y a de la captation. Alors, une personne a été invitée à nommer un héritier, disons, à 100% là, de manière très, très forte. Là, on voit ça quand qu'il y a de l'abus de personnes âgées. Ça aussi, on peut voir ça. Alors, captation et capacité de tester sont des choses qu'on doit vérifier pour s'assurer de la validité du testament qui a été fait par notaire. Un testament, ça peut être fait aussi de manière holographe à la main. Alors, première chose, la différence entre conjoint marié, conjoint de fait, regardez si un testament a été fait. Si c'est fait, ça va quand même pas se pire. S'il n'y en a pas, et voilà. C'est là que ça se complique. Ben oui. Alors, puis ça se complique, puis ça crée des litiges, des frustrations épouvantables parce que vous êtes conjoint de fait, ça fait 15 ans que vous vivez ensemble, vous avez eu 2 enfants, pas de testament, à votre décès, c'est pas votre conjoint qui va hériter, c'est vos enfants.
Mm-hmm.
Si vos enfants sont mineurs, disons là, un accident d'auto, les enfants ont 2 et 3 ans, là, les enfants vont se retrouver propriétaires de la moitié de la maison, disons que vous êtes copropriétaire avec votre conjointe, là. Fait que là, c'est le monsieur qui décède, la conjointe devient copropriétaire avec les 2 enfants. Savez-vous qu'est-ce que ça fait, ça? Il faut nommer un conseil de tutelle qui va gérer la part des enfants. Alors, pour vendre la maison, pour l'hypothéquer, ça va prendre le conseil de tutelle. Mais retenez qu'en cas de décès, des conjoints de fait, 100% vont aux enfants du conjoint décédé.
Et Maître Girard, ça peut aller plus loin que ça. Là. J'essaie de voir vos problèmes avec le conseil de tutelle. Supposons, on va dire, l'homme est décédé, mettons, et madame veut faire des rénovations importantes sur la maison. Il faudrait qu'elle ait l'approbation du conseil de tutelle des enfants.
Oui. Aïe. Parce que les enfants, ils ont 2 puis 3 ans, ils peuvent pas décider.
Non,
le conseil
comprends.
De tutelle, là, il est composé, ça prend des gens qui sont dans les 2 branches.
Oh,
dans la branche. Bon, puis là, il y a une chicane là parce que et on en voit de ça. Les circonstances du décès, dans un cas de suicide notamment, là, il y a des reproches qui se font par la famille du défunt à l'autre, malheureusement. Dans un cas d'accident aussi, on va dire ben le couple battait de l'aile et puis ben là, on essaie de mettre du sable un petit peu dans l'engrenage, là, dans le conseil de tutelle. Il peut y avoir des discordes.
La collaboration
mais,
est pas forte.
Le tribunal est là pour ça.
OK. Okay.
Si on est marié maintenant, pas de testament, ça aussi, là, ça fait des problèmes.
Ben oui, ben oui.
Alors, là, je vais donner des chiffres. Là. Alors, le conjoint marié va avoir 1/3, puis les enfants du conjoint marié décédé vont avoir 2/3 du patrimoine, de l'ensemble de l'actif.
Quand même.
Mais avant d'aller là, il faut regarder la distribution du patrimoine familial.
Mm-hmm.
Alors, décès, on regarde qu'est-ce qu'il y a dans le patrimoine familial. Disons qu'il y a la maison. Hein?
Oui.
Alors, dans le patrimoine du défunt, il y a 50% de la valeur de la maison. Mais là, souvenez-vous, pas de testament. Le conjoint marié a 1/3 de ce 50%-là, donc 66% de la valeur de la maison. Les enfants ont le reste.
Okay.
Alors, on vide le patrimoine familial, le régime matrimonial, et ce qui reste par la suite, c'est 1/3 au conjoint marié, 2/3 aux enfants du conjoint marié décédé. Alors, c'est certain que c'est compliqué.
Mais au moins, mais vous ramenez quand même quelque chose d'important. Faites votre testament.
Faites votre testament. Il y a une notion importante aussi en ce qui concerne la filiation. Puis on a vu ça dans les médias là, dernièrement. Ouais. L'enfant qui va décéder d'un couple qui est uni, qui est issu d'un couple marié, mais dont la filiation n'est pas reconnue. Disons que l'enfant vient au monde après le décès du papa.
Oui.
Si ces gens-là étaient mariés, il y a une présomption de filiation, de paternité qui s'applique.
Ah.
Ça s'applique pas dans un cas de conjoint de fait. Alors là, c'est pour ça, là, souvenez-vous, la dame là, qui doit faire toutes sortes de procédures pour faire reconnaître la filiation de son enfant décédé, la filiation dont le papa est décédé, pardon. Ah. Alors, si elle avait été mariée, l'affaire était ketchup, puis il y avait une présomption de paternité qui s'appliquait.
Merci.
Alors, il y a certaines différences, mais effectivement, vous faites bien de le dire, faites votre testament. Holographe, faites-le à la main, c'est toujours mieux que pas de n'avoir.
Merci beaucoup pour ces précisions ce matin, Mme Girard.
Au revoir.